Après avoir salué les trois des Grassins, les trois Cruchot s'en retournèrent chez eux en se servant de ce génie d'analyse que possèdent les provinciaux pour étudier sous toutes ses faces le grand événement de cette soirée qui changeait les positions respectives des Cruchotins et des Grassinistes. L'admirable bon sens qui dirigeait les actions de ces grands calculateurs leur fit sentir aux uns et aux autres la nécessité d'une alliance momentanée contre l'ennemi commun. Ne devait-il pas mutuellement empêcher Eugénie d'aimer son cousin et Charles de penser à sa cousine? Le Parisien pourrait-il résister aux insinuations perfides, aux calomnies doucereuses, aux médisances pleines d'éloges, aux dénégations naïves qui allaient constamment tourner autour de lui pour le tromper? Lorsque les quatre parents se trouvèrent seuls dans la salle, M. Grandet dit à son neveu « Il faut se coucher. Il est trop tard pour causer des affaires qui vous amènent ici. Nous prendrons demain un moment convenable. Ici, nous déjeunons à 8 heures. À midi, nous mangeons un fruit, un rien de pain sur le pouce, et nous buvons un verre de vin blanc. Puis nous dînons, comme les Parisiens, à 5 heures. Voilà l'ordre. Si vous voulez voir la ville ou les environs, vous serez libre comme l'air. Vous m'excuserez si mes affaires ne me permettent pas toujours de vous accompagner. Vous les entendrez peut-être tous ici vous disant que je suis riche. Monsieur Grandet par-ci, Monsieur Grandet par-là. Je les laisse dire. Leur bavardage ne nuise point à mon crédit. Mais je n'ai pas le sou et je travaille à mon âge comme un jeune compagnon qui n'a pour tout bien qu'une mauvaise plane et 2 bons bras. Vous verrez peut-être bientôt par vous-même ce que coûte un écu quand il faut le suer. Allons, Nanon, les chandelles. J'espère, mon neveu, que vous trouverez tout ce dont vous aurez besoin, dit Madame Grandet. Mais s'il vous manquait quelque chose, vous pourrez appeler Nanon. Ma chère tante, ce serait difficile. J'ai, je crois, emporté toutes mes affaires. Permettez-moi de vous souhaiter une bonne nuit, ainsi qu'à ma jeune cousine. Charles prit des mains de Nanon une bougie allumée, une bougie d'Anjou, bien jaune de ton, vieillie en boutique et si pareille à de la chandelle que M. Grandet, incapable d'en soupçonner l'existence au logis, ne s'aperçut pas de cette magnificence. « Je vais vous montrer le chemin, » dit le bonhomme. Quand Charles vit les murs jaunâtres et enfumés de la cage, où l'escalier à rampes vermoulues tremblait sous le pas pesant de son oncle, son dégrisement alla riforçando. Sa tante et sa cousine, vers lesquelles il se retourna pour interroger leur figure, étaient si bien façonnées à cet escalier que, ne devinant pas la cause de son étonnement, elles le prirent pour une expression amicale et y répondirent par un sourire agréable qui le désespéra. « Que diable mon père m'envoie-t-il faire ici ?» se disait-il. Arrivé sur le premier palier, il aperçut 3 portes peintes en rouge étrusque et sans chambranle. L'entrée de la chambre de Génie faisait face à une porte murée. Puis au bout du palier était l'appartement des 2 époux qui occupaient tout le devant de la maison. Madame Grandet avait une chambre contiguë à celle d'Eugénie, chez qui l'on entrait par une porte vitrée. La chambre du maître était séparée de celle de sa femme par une cloison et du mystérieux cabinet par un gros mur. Le père Grandet avait logé son neveu au 2nd étage, dans la haute mansarde située au-dessus de sa chambre, de manière à pouvoir l'entendre s'il lui prenait fantaisie d'aller et de venir. Quand Eugénie et sa mère arrivèrent au milieu du palier, elles se donnèrent le baiser du soir, puis, après avoir dit à Charles quelques mots d'adieu, froids sur les lèvres mais certes chaleureux au cœur de la fille, elles rentrèrent dans leur chambre. « Vous voilà chez vous, mon neveu, » dit le père Grandet à Charles en lui ouvrant sa porte. « Si vous aviez besoin de sortir, vous appelleriez Nanon. Sans elle, votre serviteur, le chien vous mangerait sans vous dire un seul mot. Dormez bien. Bonsoir. »« Ah, ces dames vous ont fait du feu, » reprit-il. En ce moment, la grande Nanon apparut armée d'une bassinoire. « En voilà bien d'une autre, » dit M. Grandet. « Prenez-vous mon neveu pour une femme en couche? Veux-tu bien remporter ta braise, Nanon? Mais monsieur, les draps sont humides et ce monsieur est vraiment mignon comme une femme. »« Allons, va, puisque tu l'as dans la tête, » dit Grandet en la poussant par les épaules, « mais prends garde de mettre le feu. » Puis l'avare descendit en grommelant de vagues paroles. Charles demeura pantois au milieu de ses malles. Après avoir jeté les yeux sur les murs d'une chambre en mansarde, tendu de ce papier jaune à bouquets de fleurs qui tapissent les guinguettes, sur une cheminée en pierre de liais, cannelée dont le seul aspect donnait froid, sur des chaises de bois jaune garnies en canne vernissée et qui semblaient avoir plus de 4 angles, Sur le maigre tapis de lisière, placé au bas d'un lit à ciel, dont les pentes en drap tremblaient comme si elles allaient tomber, achevées par les vers, il regarda sérieusement la grande Nanon et lui dit « Ah ça, ma chère enfant, suis-je bien chez M. Grandet, l'ancien maire de Saumur, faire de M. Grandet de Paris ?»« Oui, monsieur, chez un bain aimable, un bain doux, un bain parfait, monsieur. Faut-il que je vous aide à défaire vos malles ?»« Ma foi, je le veux bien, mon vieux troupier. N'avez-vous pas servi dans les marins de la garde impériale ?»« Oh, dit Nanon. Quoi que c'est que ça, les marins de la garde, c'est-y salé ? Ça va-t-il sur l'eau ?»« Tenez, cherchez ma robe de chambre qui est dans cette valise. En voici la clé. » Nanon fut tout émerveillée de voir une robe de chambre en soie verte, à fleurs d'or et à dessins antiques. « Vous allez mettre ça pour vous coucher ?» dit-elle. « Oui. Sainte Vierge, le beau devant d'autel que ça ferait pour la paroisse. Mais mon cher mignon monsieur, donnez donc ça à l'église. Vous sauverez votre âme tandis que ça vous la fera perdre. Oh, que vous êtes donc gentil comme ça. Je vais appeler mademoiselle pour qu'elle vous regarde. Allons, Nanon, puisque Nanon y a. Voulez-vous vous taire ? Laissez-moi coucher, j'arrangerai mes affaires demain, et si ma robe vous plaît tant, vous sauverez votre âme. Je suis trop bon chrétien pour vous la refuser en m'en allant, et vous pourrez en faire ce que vous voudrez. » Nanon resta plantée sur ses pieds, contemplant Charles, sans pouvoir ajouter foi à ses paroles. « Me donner ce bel atour, » dit-elle en s'en allant. « Il rêve déjà, ce monsieur. Bonsoir. Bonsoir, Nanon. » Qu'est-ce que je suis venue faire ici ? Se dit Charles en s'endormant. Mon père n'est pas un niais, mon voyage doit avoir un but. Pchut ! À demain les affaires sérieuses, disait je ne sais quel ganache grec. Sainte Vierge, qu'il est gentil, mon cousin ! Se dit Eugénie en interrompant ses prières qui, ce soir-là, ne furent pas finies. Madame Grandet n'eut aucune pensée en se couchant. Elle entendait par la porte de communication qui se trouvait au milieu de la cloison, l'avare se promenant de long en long dans sa chambre. Semblable à toutes les femmes timides, elle avait étudié le caractère de son seigneur. De même que la mouette prévoit l'orage, elle avait un d'imperceptibles signes pressenti la tempête intérieure qui agitait Grandet. Et pour employer l'expression dont elle se servait, elle faisait alors la morte. Grandet regardait la porte intérieurement doublée en tôle qu'il avait fait mettre à son cabinet et se disait « Quelle idée bizarre a eu mon frère de me léguer son enfant. Jolie succession. Je n'ai pas 20 écus à donner. Mais qu'est-ce que 20 écus pour ce mirliflore qui lorgnait mon baromètre comme s'il avait voulu en faire du feu ?» En songeant aux conséquences de ce testament de douleur, Grandet était peut-être plus agité que ne l'était son frère au moment où il le traça. J'aurai cette robe d'or, disait Nanon qui s'endormit habillée de son devant d'autel, rêvant de fleurs, de tabis, de damas, pour la première fois de sa vie, comme Eugénie rêva d'amour. Dans la pure et monotone vie des jeunes filles, il vient une heure délicieuse où le soleil leur épanche ses rayons dans l'âme, où la fleur leur exprime des pensées, où les palpitations du cœur communiquent au cerveau leur chaude fécondance et fondent les idées en un vague désir, jour d'innocente mélancolie et de suave joyeuseté. Le moment de voir clair aux choses d'ici-bas était arrivé pour Eugénie. Matinale comme toutes les filles de province, elle se leva de bonne heure, fit sa prière et commença l'œuvre de sa toilette, occupation qui désormais allait avoir un sens. Elle lissa d'abord ses cheveux châtains, tordit leurs grosses nattes au-dessus de sa tête avec le plus grand soin, en évitant que les cheveux ne s'échappassent de leurs tresses, et introduisit dans sa coiffure une symétrie qui rehaussa la timide candeur de son visage en accordant la simplicité des accessoires à la naïveté des lignes. En se lavant plusieurs fois les mains dans de l'eau pure qui lui durcissait et rougissait la peau, elle regarda ses deux beaux bras ronds et se demanda ce que faisait son cousin pour avoir les mains si mollement blanches, les ongles si bien façonnés. Elle mit des bas neufs et ses plus jolis souliers. Elle se laça droit, sans passer d'œillet. Enfin, souhaitant pour la première fois de sa vie de paraître à son avantage, elle connut le bonheur d'avoir une robe fraîche, bien faite, et qui la rendait attrayante. Quand sa toilette fut achevée, elle entendit sonner l'horloge de la paroisse et s'étonna de ne compter que 7 heures. Le désir d'avoir tout le temps nécessaire pour se bien habiller l'avait fait lever trop tôt. Ignorant l'art de remanier 10 fois une boucle de cheveux et d'en étudier l'effet, Eugénie se croisa bonnement les bras, s'assit à sa fenêtre, contempla la cour, le jardin étroit et les hautes terrasses qui le dominaient. Vue mélancolique bornée, mais qui n'était pas dépourvue des mystérieuses beautés particulières aux endroits solitaires où la nature inculte. Un jour pur et le beau soleil des automnes naturels aux rives de la Loire commençait à dissiper le glacis imprimé par la nuit aux pittoresques objets, aux murs, aux plantes qui meublaient ce jardin et la cour. Eugénie trouva des charmes tout nouveaux dans l'aspect de ces choses auparavant si ordinaires pour elle. 1000 pensées confuses naissaient dans son âme et croissaient à mesure que croissaient au dehors les rayons du soleil. Elle eut enfin ce mouvement de plaisir vague, inexplicable, qui enveloppe l'être moral comme un nuage envelopperait l'être physique. Ses réflexions s'accordaient avec les détails de ce singulier paysage et les harmonies de son cœur firent alliance avec les harmonies de la nature. Le bruit que chaque feuille produisait dans cette cour sonore, en se détachant de son rameau, donnait une réponse aux secrètes interrogations de la jeune fille, qui serait restée là, pendant toute la journée, sans s'apercevoir de la fuite des heures. Puis, vinrent de tumultueux mouvements d'âme. Elle se leva fréquemment, se mit devant son miroir et s'y regarda comme un auteur de bonne foi contemple son œuvre pour se critiquer et se dire des injures à lui-même. « Je ne suis pas assez belle pour lui. » Telle était la pensée d'Eugénie, pensée humble et fertile en souffrance. La pauvre fille ne se rendait pas justice. Mais la modestie, ou mieux, la crainte, est une des premières vertus de l'amour. Elle avait une tête énorme, le front masculin mais délicat du Jupiter de Phidias, et des yeux gris auxquels sa chaste vie, en s'y portant tout entière, imprimait une lumière jaillissante. Les traits de son visage rond, jadis frais et rose, avaient été grossis par une petite vérole, assez clémente pour n'y point laisser de traces, mais qui avait détruit le velouté de la peau. Néanmoins, si douce et si fine encore, que le pur baiser de sa mère y traçait passagèrement une marque rouge. Son nez était un peu trop fort, mais il s'harmonisait avec une bouche d'un rouge de minimum, dont les lèvres à 1000 raies étaient pleines d'amour et de bonté. Le corsage bombé, soigneusement voilé, attirait le regard et faisait rêver. Il manquait sans doute un peu de la grâce due à la toilette, mais pour les connaisseurs, la non-flexibilité de cette haute taille devait être un charme. Eugénie, grande et forte, n'avait donc rien du joli qui plaît aux masses, mais elle était belle de cette beauté si facile à reconnaître et dont s'éprennent seulement les artistes. Le peintre qui cherche ici-bas un type à la céleste pureté de Marie, qui demande à toute la nature féminine ses yeux modestement fiers, devinés par Raphaël, ses lignes vierges souvent dues au hasard de la conception, mais qu'une vie chrétienne et pudique peut seule conserver ou faire acquérir. Ce peintre, amoureux d'un si rare modèle, eut trouvé tout à coup dans le visage d'Eugénie la noblesse innée qui s'ignore. Il eut vu sous un front calme un monde d'amour, et dans la coupe des yeux, dans l'habitude des paupières, le je ne sais quoi divin. Ses traits, les contours de sa tête que l'expression du plaisir n'avait jamais ni altéré ni fatigué, ressemblait aux lignes d'horizon si doucement tranchées dans le lointain des lacs tranquilles. Cette physionomie calme, colorée, bordée de lueurs comme une jolie fleur éclose, reposait l'âme, communiquait le charme de la conscience qui s'y reflétait et commandait le regard. Eugénie était encore sur la rive de la vie où fleurissent les illusions enfantines, où se cueillent les marguerites avec des délices plus tard inconnues. Aussi se dit-elle en se mirant sans savoir encore ce qu'était l'amour. « Je suis trop laide. Il ne fera pas attention à moi. » Puis elle ouvrit la porte de sa chambre qui donnait sur l'escalier et tendit le cou pour écouter les bruits de la maison. « Il ne se lève pas, » pensa-t-elle en entendant la tousserie matinale de Nanon. Et la bonne fille allant, venant, balayant la salle, allumant son feu, enchaînant le chien et parlant à ses bêtes dans l'écurie. Aussitôt, Eugénie descendit et courut à Nanon qui trayait la vache. « Nanon, ma bonne Nanon, fais donc de la crème pour le café de mon cousin. » « Mais mademoiselle, il aurait fallu s'y prendre hier, » dit Nanon qui partit d'un gros éclat de rire. « Je ne peux pas faire de la crème. » « Votre cousin est mignon, mignon, mais mignon. Vous ne l'avez pas vu dans sa chambre look de soie et d'or ? Je l'ai vu, moi. Il porte du linge fin comme celui du surplis à monsieur le curé. Nanon, fais-nous donc de la galette. Et qui me donnera du bois pour le four et de la farine et du beurre ? » dit Nanon, laquelle, en sa qualité de premier ministre de Grandet, prenait parfois une importance énorme aux yeux d'Eugénie et de sa mère. Faut-il pas le voler, cet homme, pour fêter votre cousin ? Demandez-lui du beurre, de la farine, du bois. Il est votre père, il peut vous en donner. Tenez, le voilà qui descend, pour voir ou provisions. » Eugénie se sauva dans le jardin, tout épouvantée en entendant trembler l'escalier sous le pas de son père. Elle éprouvait déjà les effets de cette profonde pudeur et de cette conscience particulière de notre bonheur qui nous fait croire, non sans raison peut-être, que nos pensées sont gravées sur notre front et sautent aux yeux d'autrui. En s'apercevant enfin du froid dénuement de la maison paternelle, la pauvre fille concevait une sorte de dépit de ne pouvoir la mettre en harmonie avec l'élégance de son cousin. Elle éprouva un besoin passionné de faire quelque chose pour lui. Quoi ? Elle n'en savait rien. Naïve et vraie, elle se laissait aller à sa nature angélique sans se défier ni de ses impressions, ni de ses sentiments. Le seul aspect de son cousin avait éveillé chez elle les penchants naturels de la femme. Et ils durent se déployer d'autant plus vivement qu'ayant atteint sa 23e année, elle se trouvait dans la plénitude de son intelligence et de ses désirs. Pour la première fois, elle eut dans le cœur de la terreur à l'aspect de son père, vit en lui le maître de son sort et se crut coupable d'une faute en lui taisant quelques pensées. Munie de ses clés, le bonhomme était venu pour mesurer les vivres nécessaires à la consommation de la journée. « Reste-t-il du pain d'hier ?» dit-il à Nanon. « Pas une miette, monsieur. » Grandet prit un gros pain rond, bien enfariné, moulé dans un de ces paniers plats qui servent à boulanger en Anjou. Et il allait le couper quand Nanon lui dit « Nous sommes cinq aujourd'hui, monsieur. »« C'est vrai, » répondit Grandet, « mais ton pain pèse 6 livres. Il en restera. D'ailleurs, ces jeunes gens de Paris, tu verras que ça ne mange point de pain. » Enfin, après avoir parcimonieusement ordonné le menu quotidien, le bonhomme allait se diriger vers son fruitier en fermant néanmoins les armoires de sa dépense lorsque Nanon l'arrêta pour lui dire « Monsieur, donnez-moi donc alors de la farine et du beurre, je ferai une galette aux enfants. Ne vas-tu pas mettre la maison au pillage à cause de mon neveu ? Je ne pensais pas plus à votre neveu qu'à votre chien, pas plus que vous n'y pensez vous-même. Ne voilà-t-il pas que vous ne m'avez avint que 6 morceaux de sucre ? M'en faut 8 ? Ah ça, Nanon, je ne t'ai jamais vu comme ça. Qu'est-ce qui te passe par la tête ? Es-tu la maîtresse ici ? Tu n'auras que 6 morceaux de sucre. » « Eh bien, votre neveu, avec quoi donc il sucrera son café ? » ?»« Avec 2 morceaux. Je m'en passerai, moi. » »« Vous passerez de sucre à votre âge ? J'aimerais mieux vous en acheter de ma poche. » »« Mêle-toi de ce qui te regarde. »
Toutes les femmes, même la plus niaise, savent ruser pour arriver à leur fin. Nanon abandonna la question du sucre pour obtenir la galette.
« Mademoiselle, cria-t-elle par la croisée, est-ce pas que vous voulez de la galette ?»«
Non, non, répondit Eugénie. »
« Allons, Nanon, dit Grandet en entendant la voix de sa fille, tiens !»
Il ouvrit la mette, où était la farine, lui en donna une mesure et ajouta quelques 11 de beurre au morceau qu'il avait déjà coupé.
« Il faudra du bois pour chauffer le four, » dit l'implacable Nanon. « Eh bien, tu en prendras ta suffisance, » répondit-il mélancoliquement. « Mais alors tu nous feras une tarte aux fruits. » Et tu nous cuiras au four tout le dîner. Par ainsi, tu n'allumeras pas 2 feux.
Tiens, s'écria Nanon, vous n'avez pas besoin de me le dire.
Grandet jeta sur son fidèle ministre un coup d'œil presque paternel.
Mademoiselle, cria la cuisinière, nous aurons une galette.